question dont la réponse en surprendra plusieurs. Qui devra passer par la grande tribulation? Le grand livre de Dieu va nous donner une bonne mise en garde à ce sujet aujourd'hui à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, on a encore des questions vraiment intéressantes à poser au livre de l'Apocalypse aujourd'hui. Et je suis certaine que vous allez le constater en les entendant. Alors les voici. Qui devra passer par la grande tribulation? Qu'est-ce qui va se passer à la fin de la grande tribulation? Qu'est-ce qui va arriver aux croyants? Qu'est-ce qu'un croyant doit faire quand il se rend compte qu'il a de l'amertume envers quelqu'un? Sur qui le livre de l'Apocalypse est-il centré d'abord et avant tout? Qui contrôle les circonstances, passées, présentes et à venir? Devons-nous craindre Dieu? Est-ce que toutes les nations lui appartiennent? Qu'est-ce que les croyants doivent faire devant toute l'immoralité et l'injustice qu'il y a sur cette terre? Restez des nôtres, la parole de Dieu est sur le point de nous être enseignée par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, remercions ensemble le Seigneur pour sa fidélité, pour la liberté qu'on a dans ce pays de pouvoir entendre sa parole, même à la radio et à la télé. Prions. Oui, Seigneur, c'est un privilège que tu nous donnes de pouvoir entendre ta parole par ce média qui est la radio et celui de la télé aussi. Merci, Seigneur, pour toutes ces opportunités que tu nous donnes d'entendre l'enseignement que tu veux nous donner, toi-même, par la bouche de tes serviteurs, spécialement par la bouche de notre ami, notre frère, Régent Joly. Bénis-le aujourd'hui alors qu'il va nous enseigner ta parole et touche nos cœurs, transforme nos vies, Seigneur. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Nous débutons aujourd'hui l'étude du chapitre 15 de l'Apocalypse. Préliminaire au jugement final de la grande tribulation. Ce chapitre nous présente un autre signe des cieux, sept anges portant les sept derniers fléaux. Les chapitres 15 et 16 portent sur le même sujet. On assiste au déversement des sept coupes de colère. Après les sept sceaux, les sept trompettes et les sept personnages, on serait en droit d'espérer que le pire est maintenant chose du passé. Il n'en est rien. Le pire reste encore à venir. Les sept coupes mijotent et bouillonnent de colère. Le chapitre 15, en plus d'être le plus court de ce dernier livre de la Bible, contient la préface de la dernière série de jugements à frapper la terre durant la grande tribulation. Et ces jugements sont plus intenses et dévastateurs que tous les précédents. Je le répète, car beaucoup de personnes font cette erreur. Le but de la grande tribulation est le jugement. Dieu ne permet pas la grande tribulation avec l'intention de purifier son Église. Dieu enlèvera son Église de la terre avant ce temps d'intense épreuve à cause de sa grâce merveilleuse et infinie. Si vous consentez à accepter sa grâce avant le début de la grande tribulation, vous y échapperez. Croyez en ma parole, les coupes de colère ne sont surtout pas la bienheureuse espérance recherchée par les croyants. Non. Nous attendons plutôt, pour reprendre l'expression de l'épître de Tite, chapitre 2, verset 13, la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Si nous grandissons avec lui en amour, nous ne serons pas terrifiés par la grande tribulation. Nous ne nous sentirons pas obligés de se cacher la tête dans le sable en refusant de lire le livre de l'Apocalypse. Car si nous avons reçu Jésus-Christ par la foi, nous n'aurons pas à vivre la grande tribulation. Mais ceux qui n'auront pas reçu ce privilège devront le faire. En connaissant les calamités qu'ils devront endurer, nous devrions être motivés à témoigner avec une ferveur renouvelée de la majesté de notre Seigneur Jésus-Christ. Si la grande tribulation survient demain, vous épargnerez à ces personnes bien des tourments. Si elle a lieu seulement dans plusieurs siècles, Leurs descendants auront plus de chances de grandir dans la foi chrétienne et d'y échapper à leur tour. Dwight L. Moody était un des plus grands missionnaires de l'ère moderne. Quelqu'un a déjà dit de lui qu'il avait regardé dans le blanc des yeux de plus de personnes que tout autre homme ayant jamais vécu sur cette terre et qu'il avait épargné l'enfer à 2 millions de personnes. Il y a quelques décennies, on parlait beaucoup d'explosions démographiques et de surpopulation. Les pays occidentaux ont réglé le problème à leur façon en arrêtant de faire des enfants. Ceux-ci sont maintenant beaucoup moins nombreux et plus riches que les autres. Je ne sais pas ce que cela donnera dans le long terme. Mais une chose est certaine. Les pays occidentaux n'ont certainement pas réglé le problème de la surpopulation en enfer. Si vous voulez mon avis, beaucoup de gens s'y sentiront à l'étroit, à voir la façon dont ils vivent ici-bas aujourd'hui. Mais en tant que chrétiens, nous pouvons certainement contribuer à réduire ce problème. Avant que les anges ne déversent leur coupe de colère, on peut se demander si des croyants ont pu tenir devant l'Antéchrist pendant cette dure période. Si vous vous posez encore cette question, elle recevra une réponse claire. Dieu accordera à certains de ses témoins la grâce de tenir jusqu'au bout. Mais tout d'abord, voyons l'étape préparatoire au jugement final de la grande tribulation. Le principe de récapitulation. Apocalypse, chapitre 15, verset 1. « Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, sept anges qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Cela nous amène à la fin de la grande tribulation. Pour ma part, je serai très heureux d'en voir le bout, et ensuite, nous pourrons passer au retour de Jésus-Christ sur la terre. Puis je vis » nous rappelle que l'apôtre Jean était le témoin oculaire de ces événements. Il assiste à l'avant-première du dernier acte de la domination de l'homme sur cette terre. Les mots, un autre signe, rattachent ce chapitre au début du 12e chapitre de l'Apocalypse. On y voyait le premier signe qui était Israël. Ces sept anges de colère sont reliés au jugement qui accompagneront le retour de Jésus-Christ au chapitre 19. En d'autres mots, à partir du chapitre 12 jusqu'au chapitre 19, plusieurs séries d'événements interreliés nous sont décrits. La structure du livre ne suit donc pas un ordre strictement chronologique. Il s'agit plutôt d'un ordre logique, retraçant les mêmes événements avec une dose additionnelle de détails à chaque retour. Cette méthode est une signature personnelle du Saint-Esprit. Elle est utilisée dès le début de la Bible, dans Genèse chapitre 1 et 2. Le premier chapitre nous livre un survol général de la création qui décrit l'œuvre de Dieu. Le deuxième chapitre se concentre davantage sur la création de l'homme, en y ajoutant plusieurs détails. On peut parler ici d'un principe de récapitulation, et il se rencontre tout au long des Écritures. Nous avons un autre exemple lorsque Moïse reçoit les tables de loi, d'abord dans le livre de l'Exode et ensuite dans le Deutéronome. Dans ce dernier livre, le même événement est raconté après qu'Israël ait vécu avec la loi pendant 40 ans dans le désert. De nombreux détails issus d'une expérience pratique sont ajoutés. Dans le Nouveau Testament, nous ne trouvons pas un ou deux ou même trois, mais bien 4 descriptions de l'incarnation de Jésus-Christ sur la terre. 4 points de vue différents ont été nécessaires pour décrire la venue de la glorieuse personne du Rédempteur sur la terre il y a 2000 ans. Revenons à notre passage en effectuant une brève récapitulation du contexte. Satan a été chassé du ciel et jeté sur la terre. Il défoule sa frustration sur le reste d'Israël. En même temps, il tente une dernière fois de dominer le monde à travers les deux bêtes. Dieu exprime ensuite sa colère en mettant fin à la sordide tragédie du péché sur la terre. Cela nous rappelle cette prophétie du psaume 110, verset 1. « Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Car par eux s'accomplit la colère de Dieu. » Dans le texte original grec, le verbe « accomplir » se conjugue au temps aoriste prophétique. Il considère un événement futur comme déjà accompli. La colère de Dieu marque le jugement final de Dieu pendant la grande tribulation. Il est lent à la colère. Mais même la patience divine a des limites. Le jugement voit les dernières étapes des préparatifs du jour de colère. Ce dernier vient de Dieu, et non pas de Satan ou d'une des bêtes. Il vient directement du trône de Dieu. Jésus n'intercède plus pour les hommes, mais il occupe alors la position de juge de l'humanité tout entière. Les élus de la grande tribulation adorent Dieu. Chers amis, revenons à notre texte en lisant Apocalypse chapitre 15, le verset 2. « Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. » Une mer de verre mêlée de feu représente la terrifiante persécution de la bête pendant la grande tribulation. Nous avons déjà vu que, pendant cette période, aucun homme ne pourra acheter ou vendre sans avoir accepté la marque de la bête sur son corps. Les croyants auront beaucoup de difficultés à se procurer à manger ou à boire pendant cette période. Ceux qui aideront les croyants le feront au péril de leur vie, car la bête considérera ceux qui ne consentent pas à l'adorer comme des criminels, tout comme certains empereurs romains le faisaient au début de l'Église. Ces temps seront très difficiles. Je pose la question de nouveau. Un croyant pourra-t-il vivre pendant la grande tribulation? Non, à moins qu'il soit scellé par Dieu. Nombreux sont ceux qui, de la multitude de croyants appelés parmi les nations, seront martyrisés. Et un bon nombre des 144 000 Israélites devront être fidèles à Jésus jusqu'à la mort. Mais tous les 144 000 se regrouperont autour de l'agneau sur la montagne de Sion. Et ceux qui avaient vaincu la bête, ce sont les élus qui seront passés par les feux de la persécution pendant la grande tribulation. Ils n'auront pas perdu leur cantique. Ils auront les harpes de Dieu, et nous en saurons plus sur leur cantique au cours des prochains versets. Ils seront capables de chanter, et ils chanteront les racines d'amertume. Avant d'avancer dans notre lecture, j'aimerais m'adresser particulièrement à mes frères et sœurs chrétiens. Nous ne vivons pas la grande tribulation, et j'espère vous avoir convaincus que nous n'aurons jamais à le faire. Mais même en ces temps relativement faciles qui sont les nôtres, éprouvez-vous de la difficulté à préserver votre cœur de toute racine d'amertume? Rappelez-vous de l'avertissement de l'Épître aux Hébreux chapitre 12 verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Car l'amertume est aussi contagieuse qu'un mauvais rhume, mais elle dure parfois beaucoup plus longtemps. Nous avons tous subi des injustices à un moment donné ou à un autre de notre vie. Notre besoin d'aimer et d'être aimé sont parfois heurtés au dédain, au sarcasme ou au mépris. Ce n'était pas la grande tribulation, mais plusieurs ont connu la douleur d'un cœur brisé. Sentez-vous parfois cette racine d'amertume agripper et serrer votre cœur comme un étau? Je rencontre des chrétiens qui ont laissé cette petite racine d'amertume gâcher leur vie au point de compromettre sérieusement leur témoignage chrétien. Des individus, des familles et des églises complètes sont devenues la proie de l'amertume en refusant de lâcher prise. Cette racine d'amertume est entrée dans leur vie. Elle l'a ruinée et elle pourrait ruiner la vôtre. Nous avons besoin de prier face aux pires circonstances afin qu'aucune racine d'amertume ne puisse s'accrocher à nous. Il est remarquable de voir que ces élus de la grande tribulation ont pu vivre cette horreur sans perdre leur cantique. Avez-vous l'impression que Dieu ne répond pas à votre prière? Il a entendu votre prière, mais il arrive que sa réponse n'arrive pas quand et comment nous l'espérions. Il nous reste peut-être un bout de chemin à faire avant d'être prêt à recevoir ou entendre sa réponse. Dieu a commencé à travailler dans votre vie au moment où vous avez prononcé votre première prière sur le sujet. Il mènera à bien l'œuvre qu'il a commencée en vous si vous continuez à faire monter vers lui l'encens de vos prières. Et un jour, vous le verrez dans toute sa gloire. Si vous devez admettre que vous avez donné accès à l'amertume, parfois depuis longtemps, que pouvez-vous faire? Priez. N'attendez pas que le coupable recherche votre pardon. Nous vivons dans un monde en proie au mal et à l'injustice, et la situation ne s'améliorera pas toute seule. Si les élus de la grande tribulation peuvent vivre ces tourments et conserver leur cantique dans leur cœur, nous pouvons en faire autant en dépit des circonstances. Rappelez-vous que Dieu vous a pardonné plus que vous ne le ferez jamais. Le psaume 30, verset 6, nous exhorte. « Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. » Au cours des années, j'ai appris que le Seigneur ne laissera jamais quelqu'un croiser notre chemin, même pas un ennemi, sans que nous ayons une leçon à tirer de cette situation. Tout ce qui arrive dans notre vie, les plus hauts sommets de joie, comme les précipices les plus profonds de souffrance, est permis par Dieu et vise le développement de notre caractère. Nous devons rester dans la prière pour éviter les pièges de Satan et conserver la joie de notre salut. Un cantique d'allégresse. Apocalypse chapitre 15, versets 3 et 4. Il chantait le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait Seigneur et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et t'adoreront parce que tes jugements ont été manifestés. » Si vous ne connaissez pas encore le cantique de Moïse, vous le trouverez dans Exode chapitre 15, les versets 1 à 21. Ainsi que dans Deutéronome, chapitre 32, versets 1 à 43. Les deux passages nous entretiennent sur la délivrance, le salut et la fidélité de Dieu. Le cantique de l'agneau est une louange à Jésus, celui qui nous a rachetés. Nous l'avons vu au chapitre 5, versets 9 à 12 de l'Apocalypse. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que le livre de l'Apocalypse est d'abord et avant tout centré sur la personne de Jésus-Christ. Ne laissez pas le galop des quatre cavaliers vous ébranler, le son des trompettes vous distraire ou l'aspect des sept personnages vous décontenancer. Ne vous laissez pas griser par les sept coupes de colère. Gardez vos yeux fixés sur Jésus-Christ. Rappelez-vous que, dans son sens original, Apocalypse n'est pas synonyme de catastrophe, mais de révélation. Jésus contrôle parfaitement les circonstances passées, présentes et futures. Il est le Seigneur de l'univers. Et dans ce livre, il se dévoile dans sa sainteté, sa puissance et sa gloire. Il est le seul à pouvoir placer une main sur la main de Dieu et placer l'autre sur la main de l'homme et les rapprocher l'une de l'autre. Il peut faire cela parce qu'il est en même temps pleinement Dieu et pleinement homme. Le qualificatif « roi des nations » signifie que Jésus sera éventuellement l'objet de la louange universelle. Tous reconnaîtront sa puissance et sa domination sur toute création. Qui ne craindrait Seigneur et ne glorifierait ton nom? De nos jours, même dans nos églises, toute idée de crainte et de révérence de Dieu a été évacuée. Nous avons été influencés par l'idée que le monde se fait de Dieu, un bon papa qui ne ferait pas de mal à une mouche. On s'explique mal comment le monde, qui ne connaît pas le Dieu de la Bible, ait pu nous imposer ce faux concept. Dieu est amour, c'est vrai. Mais ne perdons pas de vue le fait qu'il est également lumière. Il est un Dieu de sainteté. Et parce qu'il est un Dieu d'amour et de sainteté, il ne laissera pas ses enfants agir capricieusement pendant longtemps. Il les corrigera. Et cela pourrait faire mal. Dieu doit être craint car il est saint. Et toutes les nations viendront et t'adoreront. Le jour viendra où les nations viendront et adoreront le Seigneur Jésus-Christ. Cette prophétie ne s'est pas encore réalisée. Peu importe les prétentions de certains, aucune nation sur la terre n'est actuellement consacrée à Jésus-Christ. Il n'existe aucune nation véritablement chrétienne sur la terre. Et la situation ne semble pas s'améliorer avec le temps. Mais un jour, Dieu interviendra personnellement afin de séparer le bon grain de l'ivraie. Il se débarrassera des hommes rebelles et laissera seulement sur la terre ceux qui l'adorent. Toutes les nations lui appartiennent. » Dans le psaume 2, verset 8, nous pouvons lire « Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Les nations appartiennent à Dieu, et un jour, il les donnera à son Fils, Jésus-Christ. Plus loin, dans le prophète Ésaïe, chapitre 11, verset 9, nous trouvons ceci. « Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » En ce jour-là, cette série d'émissions de radio sera inutile, car tous les hommes seront remplis de la connaissance de Dieu. Ensuite, le prophète Jérémie, chapitre 23, verset 5, nous enseigne. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il règnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. » Nous sommes devenus tellement absorbés par nos propres personnes et habitués au scandale que nous ne réagissons plus à l'immoralité, à l'impiété et à l'injustice du monde qui nous entoure. Si Dieu ne m'avait pas appelé à lui, je serais sans doute devenu un activiste des plus radicaux. Dans ma jeunesse, ma génération est descendue dans la rue pour défendre les idéaux dans lesquels elle croyait. Et dans ma vieillesse, elle se remplit les poches en reniant plus ou moins consciemment ces mêmes idéaux. Jacques Brel était un peu prophète lorsqu'il chantait « Les bourgeois, c'est comme des cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. » En tant qu'enfant de Dieu, je constate ce qui arrive dans le monde et je sais que je ne peux rien faire pour remédier à la situation. Mais un jour, Jésus-Christ règnera et son jugement sera exécutoire sur toute la terre. Je suis las d'entendre tous ces politiciens me dire qu'ils me représentent et qu'ils veillent au bien commun. En réalité, la grande majorité d'entre eux veillent seulement à leur propre intérêt et sur leur compte en banque, peu importe le parti politique auquel ils adhèrent. Que pouvons-nous faire devant toute cette immoralité et cette injustice? Nous pouvons prier pour notre nation et nous réjouir que celui qui rétablira la justice, le jugement sur la terre, a promis qu'il reviendrait. Dans la lettre de Paul adressée aux Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 11, Dieu fait cette autre promesse. « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ceux qui iront en enfer ne reconnaîtront pas Jésus-Christ comme Sauveur, mais ils seront forcés de le reconnaître comme Maître, car il ne leur laissera pas le choix. Il est le Seigneur de l'univers, car tout lui appartient. Ne vaut-il pas mieux le reconnaître maintenant et jouir de son amour que de le faire plus tard et subir sa colère? Chers amis, oui, il est le maître de l'univers, il est le maître de chacun d'entre nous. À nous de le reconnaître, moi je l'ai fait. À toi maintenant de le faire, de reconnaître que Jésus est souverain, qu'il règne et que tu peux bénéficier aujourd'hui même, oui maintenant, de ses bons soins. À toi de te détourner maintenant du péché, du mal, et de te tourner vers Jésus et de reconnaître l'être qu'il est pour toi, le Créateur, mais aussi le Seigneur et le Sauveur, non seulement de cette vie présente, mais de ta perdition éternelle. Invoque-le aujourd'hui même comme ton Sauveur personnel. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Apocalypse chapitre 15, verset 4 jusqu'au chapitre 16, verset 2. À vous tous, bonne lecture.
Merci beaucoup, Régent. Mes amis, Dieu est tellement bon. Au milieu d'un enseignement sur ce qui va se passer pendant la grande tribulation, il s'arrête pour nous avertir concernant l'amertume, ce mal qui guette même les croyants. Régent nous a posé une question à ce sujet. L'avez-vous remarqué? Si oui, qu'est-ce que vous avez répondu? Permettez-moi de répéter cette question. Elle est bonne pour chacun de nous. Il a dit, « Éprouvez-vous de la difficulté à préserver votre cœur de toute racine d'amertume? Alors toi, mon ami, as-tu cette difficulté? Peut-être que tu subis une injustice présentement. Peut-être que quelqu'un a brisé ton cœur. Mais je me joins à Régent pour t'encourager à ne pas laisser cette situation gâcher ta vie en demeurant dans l'amertume. On a vu aujourd'hui que le meilleur remède contre l'amertume, c'est la prière. Régent nous a encouragés à admettre que nous avons donné accès à l'amertume, si c'est notre cas. Alors, mon ami, j'aimerais t'encourager à deux choses. Prie et pardonne. Je me souviens d'une femme, une croyante par-dessus le marché, qui m'a avoué clairement qu'elle ne m'aimait pas. Ça fait longtemps de ça. Et elle ne m'a pas donné de raison. Je vous assure que ça a fait très mal. Les gens ont peut-être des degrés différents d'endurance concernant la souffrance morale et physique, mais je peux vous affirmer que je suis pas mal sensible. Et c'est probablement votre cas, vous aussi. Mais pour faire suite à mon histoire, cette journée-là, dès que je suis arrivée chez moi, j'ai répandu plein de larmes dans la présence de Dieu. Je lui ai dit combien ça me faisait mal et que cette personne était injuste envers moi. Et ensuite, je suis certaine que c'est Dieu qui a fait ça par la puissance de son esprit qui vit en moi. J'ai choisi de pardonner à cette femme, de lui pardonner sincèrement. Et gloire à Dieu, il m'a consolée par sa parole et par des amis qui ne savaient même pas ce que je vivais. J'avais la paix dans le cœur, parce que Dieu avait entendu ma prière et m'avait convaincu que je devais pardonner comme lui m'avait pardonné toutes mes offenses. Et quel prix il a payé pour m'offrir ce pardon. Le sang précieux de son Fils bien-aimé, celui en qui il avait mis toute son affection. Quand je regarde Jésus sur la croix, avec les yeux du cœur, bien sûr, et quand je constate tout ce qu'il m'a pardonné en recevant ma condamnation sur lui, il m'est possible de pardonner aux autres, même s'ils ne m'avouent pas leur tort. D'ailleurs, je suis loin d'être moi-même parfaite en amour. Et je peux vous dire que quelques années plus tard, cette personne m'a demandé de lui pardonner son manque d'amour. Quelle joie de lui dire que ça faisait longtemps que c'était fait. Et tout ça grâce à l'amour de Dieu, celui qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon ami, veux-tu recevoir le pardon de Dieu? Eh bien, reconnais que c'est pour toi que Jésus est mort sur la croix, qu'il a payé la dette de tes péchés et qu'il s'offre à toi maintenant comme sauveur, comme seigneur de ta vie, comme maître de ta vie. Alors, repens-toi, change de direction à l'égard du péché et demande tout simplement à Jésus de te sauver. Et tu vas avoir ainsi la vie éternelle. Alors, demande à Jésus de te sauver. Demande-lui maintenant.
Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir?
C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite, on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors, c'est ça un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit.
Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners?
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647 ou via courriel.
À www.radioespoir.ca. Ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir.
Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.